Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Comment imposer la paix à Vladimir Poutine ? Volodymyr Zelensky a présenté vendredi au chancelier Olaf Scholz ce qu'il appelle son plan de la victoire.
Aujourd'hui, je vais présenter à Olaf un plan sur la façon dont nous pensons pouvoir forcer la Russie à la paix, c'est-à-dire comment mettre fin à cette guerre. J'aimerais que ce soit au plus tard l'année prochaine, en 2025.
Un plan de paix salué par l'Allemagne.
C'est un message clair adressé à Poutine. Jouer la montre ne fonctionnera pas. Nous ne relâcherons pas notre soutien à l'Ukraine.
Sauf que le gouvernement allemand a divisé par deux le montant de l'aide à l'Ukraine dans son projet de budget 2025. Malgré le soutien affiché en Europe, où Volodymyr Zelensky vient d'achever une tournée, les Occidentaux s'interrogent sur leur capacité à soutenir l'Ukraine dans la durée. D'autant qu'une victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine pourrait remettre en cause le soutien de Washington. Des incertitudes à un moment où l'armée de Vladimir Poutine semble prendre l'avantage sur le front. Elle tente de repousser les Ukrainiens de la région de Koursk en territoire russe et progresse dans l'est de l'Ukraine. Dans l'armée de Kiev, peu de volontaires et des désertions en augmentation. À l'approche d'un troisième hiver au combat, les hommes sont fatigués.
Ici, il n'y a jamais de silence. Et jamais de relève. Nous sommes en poste depuis le mois de mai et nous sommes tout le temps là.
Alors les troupes ukrainiennes peuvent-elles tenir leur position ? Tandis que Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'envoyer au front des soldats fraîchement arrivés de Corée du Nord. La fin de la guerre en 2025, est-ce vraiment possible ? Et à quel prix ?
Nos trois invités, nos trois experts, Jean de Glignasti, bonsoir, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Monsieur l'ambassadeur, votre dernier essai, France, une diplomatie déboussolée, est paru à l'Inventaire, aux éditions de l'Inventaire. Selon vous, ce sont les Ukrainiens qui sont le plus en difficulté. Il commence à y avoir un véritable refus de la guerre, avec de plus en plus de désertions. Et même si personne ne souhaite de cesser le feu, des deux côtés, des négociations pourraient commencer avant 2025. Guillaume Mansel, à côté de vous, ancien officier, vous avez été un tenant-lieu de colonel, comme on dit César, ancien lieutenant-colonel et chroniqueur de guerre. Vous êtes l'auteur du blog Ne pas subir et vous avez écrit Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette aux éditions Flammarion. Selon vous, les deux armées se trouvent en difficulté, mais si l'on ne veut pas que les négociations se transforment en capitulation pour les Ukrainiens, il faut donner à Kiev les moyens de se défendre. Le rôle clé sera joué par les États-Unis. Elsa Vidal, rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. Bonsoir madame, votre ouvrage « La fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie » est paru chez Robert Laffont. Selon vous, quand Zelensky parle de la fin de la guerre en 2025, cela montre que l'Ukraine n'est pas va-t-en-guerre et cela entr'ouvre la possibilité pour les Russes de se mettre à la table des négociations. On démarre avec la carte du jour.
L'état du conflit aujourd'hui, on va le voir, les Russes continuent donc leur grignotage territorial à l'est du pays. Les gains ne sont pas très grands, mais la pression est constante sur les forces ukrainiennes. On le voit avec une ville cible pour les Russes, Pokrovsk, une ville minière essentielle à la production d'acier et donc d'armes pour les Ukrainiens. Les combats font aussi rage dans le nord-ouest, dans la région de Koursk, où les Ukrainiens maintiennent leur position conquise, on s'en souvient, à la surprise générale en août dernier. Guillaume Ancel, qui est en position de force aujourd'hui ? Personne, vous dites qu'ils font vraiment jeu égal ?
En fait, les deux sont en difficulté. C'est ça qui est étonnant. On a dépassé 31 mois de guerre. On a tous espéré que la contre-offensive ukrainienne soit un succès en 2023. Les Russes ont espéré que leur offensive de 2024 soit un succès. On voit bien qu'on est au bout. Ils ont conquis en un an, cette offensive a été lancée en octobre dernier.
En Russie, donc Koursk est une ville russe.
Les Russes ont conquis en un an dans le Donbass 1900 km². Je rappelle que l'Ukraine en fait 600 000 km². Donc ça veut dire qu'ils ont à peine 19% du territoire ukrainien, que ce rythme-là, il leur faudrait à peu près deux siècles pour arriver à soumettre l'Ukraine. Mais l'Ukraine, en face, a énormément de mal à résister quand la Russie se met en mode rouleau-compresseur, c'est-à-dire l'ancienne armée soviétique qui avance à coups de bombardements énormes. C'est pour ça d'ailleurs que la ville de Pokrovsk ne présente plus aucun intérêt parce qu'elle est ratiboisée progressivement par l'armée russe. Okay. Mais en fait, leur avancée, n'est pas assez efficace et puissante pour qu'il puisse espérer soumettre l'Ukraine. Et l'Ukraine a parfaitement conscience qu'elle n'a pas les forces nécessaires pour chasser l'ensemble des Russes de leur territoire. Donc, on arrivera forcément à un moment à une négociation. La question, c'est quand et avec quelle carte de négociation à la table.
Elsa Vidal, l'enjeu, c'est la mobilisation. Hein. C'est ce qu'on disait avec beaucoup de désertion aussi du côté ukrainien et du côté russe des Nord-Coréens qui viendraient en renfort aux armées russes. C'est ce que dit Zelensky, le président ukrainien.
Oui, c'est ce que dit Zelensky. En fait, tout comme Guillaume Ancel rappelait que les deux armées sont en difficulté, l'équation initiale de déséquilibre démographique n'a pas été résolue et toutes deux ont déjà largement entamé le stock des hommes désireux de se battre. Mmh. Alors il faut en faire venir d'autres, préférentiellement de l'étranger en Russie, parce qu'on a déjà, encore une fois, beaucoup mobilisé ou attiré les personnes originaires du Caucase du Nord.
Et en puis, les payant, c'est ça ?
En les payant bien, en faisant en sorte que ce soit avantageux pour des familles très élargies d'avoir un membre dans la guerre ou dans l'opération spéciale telle qu'on en parle en Russie. Et puis côté ukrainien, on a juste... C'est déjà énorme, mais on a remonté l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans, mais il n'en reste pas moins que des jeunes hommes de 18 à 25 ans sont pour le moment préservés d'aller combattre. Beaucoup d'occidentaux ou d'alliés occidentaux disent qu'il faut mobiliser plus, mais le soutien populaire en faveur de cette mobilisation n'est pas là.
Mais Jean de Glignasti, c'est véridique, c'est avéré, ces troupes nord-coréennes en renfort des Russes ?
Non. Les Coréens ont l'habitude d'envoyer des contingents de travailleurs civils travailler dans les usines, et l'État coréen d'ailleurs ramasse les salaires.
Les Nord-Coréens, on parle de la Corée du Nord, hein. Oui, c'est ça.
Donc ils ramassent les salaires, puis ils donnent quelques sous à ces pauvres travailleurs, et ensuite ils les rapatrient. Alors, par extension, on peut penser qu'il y a peut-être individuellement des soldats coréens, mais on imagine mal des unités entiers, constituées coréennes. Je ne crois pas. J'ai du mal à le penser. Mmh. Ils livrent bien sûr des obus tant qu'on veut, des missiles simplifiés, oui, tout ça. Mais des hommes au front. En unité, sous uniforme coréen.
Et ils reconstruisent des villes occupées par les Russes.
Ça, c'était tout à fait vrai. Oui, tout à fait.
Guillaume Ancel, en même temps, on dit que septembre a été le mois le plus meurtrier pour l'armée russe ou les Américains, mais qu'en même temps, la puissance des bombardements russes est à peu près 10 fois supérieure à celle des Ukrainiens. Qu'est-ce qui empêche, du coup, les Russes d'avoir des gains supérieurs à ceux qu'ils ont aujourd'hui?
En fait, ils ont voulu se concentrer sur le Donbass. Depuis octobre dernier, donc le sud-est du pays. Et ils respectent un principe essentiel de la guerre qui est de concentrer ses efforts à un endroit, parce qu'ils voyaient que leur attaque sur 1100 km de front n'avait aucun sens. Mais aujourd'hui, on le voit très bien sur la carte, ils sont concentrés essentiellement d'ailleurs dans la région de Pokrovsk. Et malgré ça, il leur faut des pertes énormes. Certains jours, on a parlé de 1000 morts par jour. De 1000 morts par jour, ça veut dire 3500 blessés. Hein. Mécaniquement, ce sont ces ordres de grandeur pour avancer d'un kilomètre, deux kilomètres. Et donc, leurs pertes sont beaucoup trop importantes par rapport aux gains qu'ils peuvent espérer. Et puis en plus, les Russes, même s'il y a un déséquilibre qui est fondamental, hein, la Russie est quatre fois plus peuplée que l'Ukraine, mais les Russes arrivent un peu aux limites de ce qu'ils peuvent reproduire et réalimenter en termes d'équipement. Et puis aussi de soldats formés. Parce que, bien sûr qu'on peut envoyer les gens à la boucherie, mais il leur faut un minimum de connaissances pour ne pas se faire hacher menu dès le début, ce qui se passe actuellement.
Mais... Oui, Elsa Vidal, sur les chiffres, sur les chiffres côté russe, côté ukrainien, encore une fois, c'est avéré, les morts, les blessés, chacun a intérêt à minimiser éventuellement.
Oui, chacun minimise, on a beaucoup de mal à obtenir des vérifications, même s'il y a plusieurs projets qui ont pu établir les identités d'au moins 40 000 soldats russes, mais on n'est pas capable de faire les véritables extrapolations à l'heure actuelle.
Mais Jean de Glignasti, pardon, mais sur la région de Koursk, quand même, on se dit que cette intrusion ukrainienne qui a surpris le monde entier, hein, on pensait que très vite les Russes allaient reconquérir ce territoire. Et en fait, il n'en est rien. L'Ukraine est toujours présente, et c'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, en territoire russe. Actuellement, on le voit sur la carte. Comment l'expliquer, cela aussi?
Je crois que le premier objectif des Russes, au moment de la contre-offensive ou l'offensive ukrainienne en territoire russe, c'était surtout de ne pas dégarnir le front de Pokrovsk. Et en revanche, l'objectif ukrainien, c'était justement d'affaiblir un peu la pression russe dans le Donbass. Donc le premier objectif, maintenir les troupes là où elles sont. Donc ensuite, ils ont ramassé des troupes qui sont prises probablement de Kherson, et, où il n'y avait pas de... Actuellement, Kherson, le secteur est à peu près calme. Et ils ont essayé de reprendre, et là, ils n'ont pas pu. Et donc, ils se sont un peu cassés les dents. Mais ce n'est pas une priorité totale pour les Russes, parce qu'ils savent qu'à un moment ou un autre, ils le reprendront. Même si ça fait partie des négociations, les Russes ne négocieront que quand ils auront estimé avoir suffisamment d'avantages territoriaux pour être en position de force. Donc, ils ne sont pas prêts à négocier actuellement. Et ça, c'est une... C'est un coin, une petite épine qu'on enlèvera le moment venu.
Avant d'en venir à la négociation et à la fin de la guerre en 2025, est-ce que Zelensky, Elisabeth, il y a quelque chose qui est quand même en train de changer, c'est l'opinion publique aussi. En Ukraine, on se rend compte que 57% des Ukrainiens veulent aujourd'hui une négociation. Ils étaient 30% il y a quelques mois. En fait, donc ça va assez vite quand même aussi.
Oui, mais ce temps, en fait, il évolue de manière assez parallèle et en miroir en Russie.
Aussi.
Oui, dans les, en fait, dans les régions qui en Russie ont payé le plus lourd tribut à cette guerre, par exemple en Tchétchénie, c'est là qu'on trouve le plus haut niveau de volonté de conclure une paix, enfin, c'est-à-dire de sortir par la négociation et de sortir de la guerre. Et on a effectivement cette progression aussi en Ukraine, mais il faut comprendre que cette guerre peine à produire des résultats de part et d'autre et interroge de plus en plus le sens de cette aventure, même si côté ukrainien, il y a bien sûr la question de la survie de l'État, mais encore une fois, les questions politiques qui jusque-là étaient mises de côté, et les dissensions, commencent à ressurgir parce qu'on n'avance pas assez vite sur le champ de bataille.
C'est ça. Et Jean de Glignasti, en fait, c'est l'Ukraine qui, si Volodymyr Zelensky dit aujourd'hui qu'il laisse entendre qu'il y a une possibilité de fin de guerre en 2025, c'est qu'il se sent en difficulté tout de même sur le terrain.
Et qu'il l'est.
Alors, il est en difficulté sur le terrain, même s'il y a des difficultés du côté russe, bien évidemment, mais elles sont moindres. Il voit très bien se profiler une année maigre, et des années maigres en termes d'aide. Puisque on ne sait pas trop ce que pense Kamala Harris. Si Trump est élu, c'est probablement la fin de l'aide. Les Allemands ont annoncé la moitié de la réduction du budget. Donc, il n'y aura plus assez d'argent, d'une part. D'autre part, ils ont du mal à recruter. Il n'y a plus beaucoup de soldats. Les troupes ukrainiennes résistent héroïquement, mais elles résistent. Et la pression est croissante. Les Russes...
Quand vous dites elles résistent, c'est qu'elles sont passives. Elles ne sont pas en offensive.
Elles ne sont pas en offensive. Elles résistent très bien, mais on sent bien que le déséquilibre va croissant en faveur de la Russie. Donc c'est le moment. Mais cela dit, il a un discours relativement ambigu, parce qu'il dit je refuse tout cesser le feu, etc. etc. Mais en même temps, on sait très bien que quand il est passé à Paris-Berlin, etc., il a parlé de ça, il a parlé d'une solution.
La semaine dernière, il a parlé de ça.
Alors, est-ce que c'est le moment de s'asseoir à la table des négociations et est-ce que Poutine pourra être cru et fiable? On va se remémorer ce qui s'est passé avec notre archive en 2014, l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine célèbre cette annexion et dit « je n'irai pas plus loin ».
La Russie est de retour, crie la foule. 100 000 personnes sur la place Rouge et Vladimir Poutine qui arrive comme un empereur romain au soir d'un triomphe militaire.
La Crimée est comme un bateau qui, après un voyage long et pénible, est enfin rentré dans son port d'origine.
Quelques heures plus tôt, il avait signé le traité qui attache officiellement, avec effet immédiat, la Crimée à la Russie. Une heure de discours très anti-occidental, mais aussi une affirmation : la Russie ne cherchera pas à s'emparer d'autres régions d'Ukraine.
Ne croyez pas ceux qui vous font peur, ceux qui disent qu'après la Crimée vont suivre d'autres régions. Nous ne voulons pas la scission de l'Ukraine. Nous n'en avons vraiment pas besoin.
Guillaume Ancel, on sait ce qu'il est advenu, bien sûr, on regarde la situation actuelle. Poutine, comment Zelensky peut-il imaginer négocier aujourd'hui avec cet homme-là qui n'a pas tenu ses engagements de 2014?
Pour moi, la question clé va être celle du rôle des États-Unis. Parce qu'en réalité, c'est eux qui ont en main la destinée de la guerre en Ukraine et de la guerre au Proche-Orient. En réalité, il n'y a qu'eux qui ont un poids aujourd'hui militaire. L'Union européenne a montré son incapacité à se mobiliser militairement et à créer une défense commune, y compris pour aider l'Ukraine. L'acteur sur lequel on ne peut pas compter aujourd'hui militairement, c'est l'Europe. C'est désespérant, mais c'est un constat après 2 ans et demi de guerre. Et du coup, tout va dépendre des États-Unis, bien sûr, de l'issue de l'élection présidentielle. Jean le rappelait tout à l'heure, si c'est Donald Trump, on sait qu'il voudra arrêter le plus vite possible la guerre, quitte à capituler.
Oui.
Et c'est ça qui nous inquiète tous.
Que l'Ukraine capitule.
Et si c'est Kamala Harris, en fait, on ne sait pas réellement quelle puissance elle pourra mettre dans ce conflit, sachant que les États-Unis, même s'ils ont une très grande puissance militaire, elle reste limitée. Et ils ne peuvent pas soutenir deux fronts en même temps. Aujourd'hui, ils soutiennent essentiellement Israël dans son offensive contre le Hezbollah et contre le Liban. Et du coup, il y a une partie de l'aide qui était destinée à l'Ukraine qui n'arrive pas. Parce qu'ils ne peuvent pas gérer les deux en même temps. Leurs stocks ne sont pas suffisants pour alimenter avec la même priorité les deux. Donc, il y a une compétition de fait entre ces deux conflits.
C'est pour, Elsa Vidal, c'est qu'on soit, pour revenir sur ce plan de la victoire là, de Zelensky, on ne sait pas très bien quels sont ses contours. Si on se comprend bien, quelque part, il veut un compromis entre « laissez-moi entrer à l'OTAN » et de l'autre côté, bon, « j'accepte que temporairement, les régions de l'Est restent sous contrôle russe ». C'est un peu ça qu'il est en train de se dessiner.
Je pense qu'il est en train de faire le tour des chancelleries pour comprendre quelles sont les attentes de ses principaux alliés, puisque comme on a de cesse de le répéter depuis un certain nombre maintenant d'années, le facteur décisif, c'est nous dans ce conflit. Donc il est très important qu'il comprenne nos attentes, jusqu'où
nous,
on peut le soutenir.
L'OTAN,
nous,
l'Occident,
nous les Occidentaux, les ses alliés, l'OTAN entre autres, parmi les structures qu'il soutient. Et c'est pour ça qu'il fait ses consultations. Et d'ailleurs, vous voyez souvent son plan, on le traduit comme plan de la victoire ou plan de la paix. Donc l'ambiguïté est là. Mais ce qui était important pour lui, et je pense que c'est véritablement plus qu'un enjeu sémantique, c'est de faire entendre que maintenant l'Ukraine est prête à discuter d'un processus de négociation. Il s'est retrouvé face à Olaf Scholz dans une inversion étonnante. Scholz disant « on sera contre une paix dictée par la Russie » et Zelensky disant « nous sommes prêts pour des négociations en vue de quoi ?» Tout reste encore à déterminer.
Et faut-il autoriser des missiles longue portée à bombarder le territoire russe, ce qui ferait des Occidentaux, des co-belligérants éventuels et potentiels, avec les rétorsions qu'on peut imaginer de la part de la Russie ?
C'est une question qui fracture le groupe de Rammstein, c'est-à-dire les 54 pays qui soutiennent l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on ne réfléchit pas de la même manière quand on parle d'Israël par Netanyahou et de l'Ukraine par Zelensky. On est absolument sans aucune forme de contrainte sur ce que fait Netanyahou alors qu'il a commis un carnage sur Gaza et qu'aujourd'hui, sa guerre contre le Hezbollah va surtout détruire une grande partie du Liban. Et par contre, quand c'est Zelensky, il ne faut pas qu'il bouge un petit doigt sans qu'il ait l'autorisation de l'OTAN.
C'est pour ça que vous avez signé une tribune dans le Monde pour dire qu'il faut autoriser l'Ukraine à frapper les sites de lancement russe.
Ce qui est très gênant, c'est que la Russie bombarde au quotidien l'intégralité de l'Ukraine. Il n'y a absolument aucune zone préservée, qu'elle soit urbaine, citadine, etc. Et nous, on interdit à l'Ukraine de frapper avec nos armes, alors qu'en plus, l'Ukraine a montré qu'avec ses propres armes, elle le faisait sans déclencher une guerre nucléaire. Donc il y a une forme d'incohérence de notre côté. On veut faire la guerre à la Russie, à condition de ne pas faire la guerre à la Russie. Au fond, ce sont les Américains qui sont le plus en difficulté, parce qu'ils ne veulent surtout pas d'une confrontation directe avec la Russie.
Mais ça n'a pas échappé d'ailleurs à Vladimir Poutine, et c'est pour ça qu'il s'est mis du côté de la rue arabe, parce que ce faisant, il continue à fragiliser ce qu'il appelle l'Occident collectif en soulignant nos contradictions internes. D'abord, une vie n'a pas le même prix, les crimes de guerre ne sont pas condamnés ou empêchés avec la même force par les États-Unis quand il s'agit d'Israël ou quand il s'agit de la Russie, et puis la souveraineté territoriale du Liban, et bien c'est paradoxalement Vladimir Poutine qui la défend, en tout cas en mots.
On va évoquer avec vous, Anna, l'aide occidentale en baisse à l'Ukraine.
Vous l'avez évoqué tous les deux. En deux ans et demi de guerre, les pays d'Europe ont accordé au total 272 milliards d'euros d'aide à la fois militaire, financière et humanitaire à l'Ukraine. Les États-Unis, c'est 85 milliards d'euros auxquels viennent s'ajouter une nouvelle aide de 8 milliards d'euros et des munitions longue portée, c'est ce qu'a annoncé Joe Biden à la fin du mois de septembre. Mais ces aides pourraient disparaître en partie d'ici l'année prochaine, selon l'Institut de recherche allemand Kiel. Berlin avait déjà annoncé la diminution, on l'a dit, de son aide de moitié pour 2025 et le Kiel Institute estime que d'autres pays européens pourraient en faire autant. Et du côté des États-Unis, eh bien, le résultat de l'élection, là aussi on l'a dit, pourrait diviser par deux le montant de l'aide à Kiev, et des sources militaires laissent aussi entendre que les stocks du Pentagone ne sont plus suffisants pour approvisionner l'Ukraine. Et si ces baisses se confirment, eh bien, elles pourraient être en partie compensées par des livraisons de matériel de l'OTAN. Et l'Union européenne a aussi acté jeudi dernier un prêt à l'Ukraine d'un montant de 35 milliards de dollars financé grâce au gel des avoirs russes. Jean de Glignasti, est-ce que l'Europe aujourd'hui elle a les moyens d'aider encore longtemps l'Ukraine financièrement, militairement, humanitairement parlant ?
Elle a les moyens d'aider un peu, mais pas beaucoup. Parce que déjà, les 35 milliards, ils sont soumis à une condition.
Par
des conditions, j'allais dire, politico-techniques. Pour l'instant, les Hongrois s'y opposent. Et en plus, les Américains ont demandé que pour gager les prêts sur les fonds gelés russes, il fallait pour cela que les sanctions ne courent pas sur 6 mois, mais courent sur 36 mois. Et là, ça va être difficile déjà à régler. On va y arriver, mais
oui,
au niveau européen...
Oui, juridiquement parlant, vous voulez dire.
Voilà, c'est compliqué. Donc, on va voir le Conseil européen de la fin du mois, je crois, va décider. Donc, ça veut dire que peut-être les obstacles auront été réglés. D'autre part, on connaît la situation économique de la France. On sait bien que de l'Allemagne aussi. L'Italie est plus que réticente. Donc,
qu'est-ce qu'il espère, Zélène comme aide, là, pendant cette tournée, par exemple
La tournée de Zelensky, elle avait pour objet d'essayer de voir ce que l'Europe était capable de fournir en l'absence de réponse positive des États-Unis. La visite de Zelensky aux États-Unis n'a pas été un succès. On lui a demandé de remballer en quelque sorte son plan de la victoire. Il n'a pas obtenu le droit de tirer ses missiles en profondeur dans le territoire russe. Donc il a improvisé un peu d'ailleurs sa tournée en Europe pour dire, si les Américains me laissent tomber, en gros, est-ce que vous êtes capable de faire ? Et là, les résultats ne sont pas totalement négatifs, mais en tout cas pas à la hauteur des espérances des Ukrainiens.
Une question à l'ancien militaire. Est-ce que nous nous sommes affaiblis en aidant l'Ukraine ? Et est-ce que nous risquons d'être trop faibles au cas où la Russie aurait une velléité ?
Non, je vais faire une réponse de Normand, bien que je ne le sois pas. Mais d'un point de vue militaire, s'il n'y avait pas eu cette guerre, je pense que nos budgets de la défense auraient continué à se réduire dans toute l'Europe. Certains pays n'ayant plus qu'une armée de papier, comme l'Allemagne. Et donc ça a été un vrai choc pour les militaires et pour les sociétés de redécouvrir que la guerre nous concernait, et pas seulement les pauvres et loin de nous.
Sachant que les services secrets allemands disent aujourd'hui que la Russie est en capacité d'attaquer l'OTAN à l'horizon 2030.
Oui, parce qu'en fait, quand ils disent ça, il faut lire en creux qu'ils estiment qu'aujourd'hui, l'armée russe a tellement été fragilisée par cette guerre en Ukraine qu'elle n'a pas les moyens d'attaquer l'OTAN. Mais dans quelques années, si on la laisse se remonter, elle aura de nouveau cette capacité. Ce qui est inquiétant au sens inverse, c'est qu'on assiste à une vraie incapacité de l'Europe à construire sa défense commune. Les 27 budgets de l'Union européenne sont tout à fait conséquents s'ils étaient rassemblés. Mais aujourd'hui, chacun vit son armée comme un petit jardin particulier, alors qu'on a besoin d'une forêt. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. C'est simplement une armée qui soit à la hauteur de l'Europe et une industrie de la défense, un Airbus de la défense qui soit capable de produire en grande quantité. Vous savez, il y a un chiffre qui est emblématique. Ce sont les obus d'artillerie. Vous vous souvenez que Thierry Breton, le commissaire européen, avait promis 1 million d'obus. 1 million d'obus, c'est un tiers de la consommation des Ukrainiens pendant l'année. Donc c'est un tiers de l'année. On en a fourni peut-être 200 000. On n'est pas sûr d'avoir atteint 300 000.
– Lesa Vidal, juste pour conclure, est-ce que Poutine a intérêt, lui, à conclure cette guerre en 2025 ? On entend que Zelensky a cette velléité-là, ce souhait. Mais est-ce que Poutine, lui aussi, l'entend de cette oreille ?
Il l'entend très probablement dans un horizon assez proche, plutôt 2026. En tout cas, les projections de résistance de l'économie russe tiennent compte de l'effort qu'il fournissait à l'heure actuelle jusqu'en 2026. Donc oui, je pense que Zelensky a tenu compte de cela pour évoquer cet horizon.
Lors de ce passage, cette tournée européenne. Merci à tous les trois d'avoir évoqué la situation asymétrique entre l'Ukraine et la Russie. Merci infiniment.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.